Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les syndicats et organisations de jeunesse qui avaient appelé à la première journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites se sont réunis ce matin pour tenter de faire entrer le mouvement dans la durée. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation. Ce sera mardi prochain. Manière donc de mettre la pression sur l'exécutif qui, tout en excluant de revenir sur le système de retraite par points, s'est dit une nouvelle fois ouvert à des compromis sur les modalités d'application de la réforme.
Dans votre journal également, les parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien se réunissent aujourd'hui à Vienne. Dans un contexte de tension accrue entre les Européens d'un côté et la République islamique de l'autre.
Oui, l'Iran qui a pris pour habitude de se retirer progressivement ces derniers mois de ses engagements internationaux en réponse aux sanctions américaines visant son économie. En pleine COP25, des milliers de jeunes Greta Thunberg en tête sont attendus aujourd'hui dans les rues de Madrid pour pousser les pays signataires de l'accord de Paris à agir contre le réchauffement climatique. Enfin, l'invité de la rédaction. Dans une vingtaine de minutes, Julien Bayou, le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors que les pro-climat marcheront encore aujourd'hui à Madrid, alors que la mobilisation pour les retraites ne faiblit pas, vivre à la marge, vivre reclus, se retirer du monde pour mieux lui résister et retrouver ce contact perdu avec la nature. C'est une question qu'envisage l'historien Philippe Artière dans son livre Le dossier sauvage à travers la vie, le parcours d'ermite dans l'histoire qui ont provoqué l'attirance ou la répulsion de ceux qui entendaient parler de leurs histoires.
Merci et à tout à l'heure. Le jour J du 5 décembre, aussi attendu que redouté, étant désormais passé, la question qui demeure à présent n'en reste pas moins vertigineuse. Comment gérer le jour d'après? Un sujet d'autant plus délicat que la journée d'hier, sans atteindre l'ampleur des manifestations de 95, restera dans les annales de la contestation sociale quand la CGT estime que les quelques 250 cortèges ont réuni 1,5 million de personnes en France. Le ministère de l'Intérieur a lui comptabilisé plus de 800 000 manifestants. Une mobilisation massive donc, avec des taux de grévistes élevés, particulièrement dans l'éducation, le secteur de l'énergie, sans oublier les transports, au point même parfois d'atteindre des records, 55,6% de taux de grévistes à la SNCF, du jamais vu depuis 2007. Le mouvement de grève a d'ailleurs été aussitôt reconduit à la compagnie de transport ferroviaire comme à la RATP. De son côté, le syndicat de professeurs SNES-FSU a déjà appelé une nouvelle grève mardi prochain, sans compter que nombre d'écoles montraient encore porte close en ce vendredi matin. Demain, pour une toute autre raison liée cette fois-ci à la taxation du gazole routier, ce sont les transporteurs qui entreront à leur tour dans la danse. Enfin, les gilets jaunes, eux, devraient tenter un énième retour au camp. Le rapport de force avec l'exécutif semble décidément bel et bien engagé, de sorte que chacun se retrouve au fond aujourd'hui au pied du mur. Alors ce matin, le gouvernement, par la voix de son secrétaire d'État, Gabriel Attal, a non seulement reconnu l'ampleur de la mobilisation d'hier, mais aussi l'avoir entendu. Et dès lundi, le gouvernement recevra donc l'ensemble des partenaires sociaux. Quant aux syndicats, ragaillardis par le succès de cette démonstration de force, tranquille après, faut-il le rappeler, des mois de marginalisation, ils se réunissaient ce matin avec les organisations de jeunesse pour décider de la suite à donner au mouvement. Et ce sera donc une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi prochain. Je vous propose d'écouter au sortir de cette réunion de l'intersyndicale Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT. Elle répond à Grégoire Le Callot.
On sait, et vous le savez, qu'il y a déjà beaucoup de secteurs qui sont, dès ce matin, très mobilisés. Donc, rendez-vous tous ensemble dans la rue le mardi 10 décembre pour une nouvelle journée de temps fort, interprofessionnel, intergénérationnel, de grève, d'action, de manifestation. Partout, il y a des assemblées générales. Il y aura évidemment des mobilisations un peu partout en France, y compris demain un certain nombre de rendez-vous dans les territoires. Et puis, le week-end, vous savez par exemple que dans les transports, les salariés ne lâchent rien et sont toujours aussi fortement mobilisés par rapport à hier, aujourd'hui, demain, dimanche et lundi. Donc maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Les salariés ont marqué un point. On entend la réponse d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron maintenant. Très clairement, on vous redit, il s'agit de retirer le projet de réforme universelle par points et d'ouvrir immédiatement des négociations pour améliorer le système actuel de retraite. Il y a des moyens, on a des propositions à faire, et y compris unitairement les faits. Donc voilà, qu'ils nous téléphonent maintenant. On est même libre dimanche.
Voilà, Catherine Perret, secrétaire confédérale CGT, elle répondait à Grégoire Lecalot. Alors même si l'exécutif continue d'afficher sa fermeté, il assure dans le même temps que la porte reste ouverte pour continuer à discuter. On l'a dit, les partenaires sociaux seront reçus dès lundi. À cette occasion, le haut commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, leur fera des propositions. Déjà ce matin, Gabriel Attal a proposé de revaloriser la rémunération des enseignants pour compenser l'effet négatif de la réforme sur leur pension de retraite. Enfin, le Premier ministre, Édouard Philippe, devrait lui faire des annonces dans la foulée de cette réunion avec les partenaires sociaux, sans attendre donc le milieu de la semaine prochaine comme prévu initialement. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
On le voit, la manifestation d'hier a visiblement rendu fébrile le gouvernement, lequel a choisi, Pierre, d'accélérer le rythme.
Oui, le tempo s'accélère en effet. Le chef du gouvernement a pris acte de la journée de mobilisation d'hier, mais il tient à rester le maître des horloges pour mener à bien cette réforme des retraites. Surtout, il ne veut pas subir la pression de la rue comme en 1995, car les temps ont changé avec les risques de débordement liés à la crise des gilets jaunes. Édouard Philippe, qui porte cette réforme des retraites, explique donc que la porte de la négociation reste ouverte et qu'il y a encore des marges de négociation dans un cadre déjà fixé par l'exécutif. Message que les membres du gouvernement portent depuis plusieurs jours maintenant dans les médias. Mais l'agenda se précise, comme l'expliquait ce matin sur France Info Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale.
Il faut continuer à discuter. Lundi, on va recevoir l'ensemble des partenaires sociaux pour continuer à avancer avec eux. Des propositions vont être faites par Jean-Paul Delevoye dans la foulée, en début de semaine. Lundi, mardi, et le Premier ministre fera des annonces dans la foulée de celle de Jean-Paul Delevoye pour annoncer quelle sera l'architecture du projet de loi, quels seront les grands équilibres, pour répondre à des questions qui sont posées depuis maintenant plusieurs semaines, qui sont au cœur de certaines inquiétudes et donc de certaines mobilisations. C'est important qu'il y ait une réponse maintenant qui soit apportée.
Les partenaires sociaux sont donc conviés pour un dernier tour de table lundi prochain par la ministre des Solidarités et par le haut commissaire aux retraites avant l'annonce des préconisations de Jean-Paul Delevoye, puis une intervention du Premier ministre, sans doute mardi ou mercredi prochain. Il précisera alors les contours définitifs de la réforme. On observe donc que dans cet acte 2 du quinquennat, les syndicats redeviennent des interlocuteurs incontournables du gouvernement. Hier, Édouard Philippe leur a même adressé un satisfecit pour avoir su contenir les troupes lors de cette première journée de mobilisation. On le voit, le Premier ministre est à la manœuvre pour porter la réforme du quinquennat d'Emmanuel Macron, présentée comme la mère des réformes et sur laquelle le chef de l'État ne peut pas reculer pour la suite de son quinquennat et dans l'objectif de 2022.
Merci Pierre Neveu. Après l'ex-eurodéputé et actuel vice-gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, mais aussi l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, ou bien encore la vice-présidente du Modem, Marielle de Sarnez, François Bayrou sera-t-il à son tour mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du Parti centriste à Strasbourg? Réponse dans la journée. Le maire de Pau est arrivé ce matin au tribunal de Paris pour y être entendu. Et face à cette éventualité, eh bien celui qui avait fait pourtant de la droiture un axiome politique, on est réduit aujourd'hui à tenter de relativiser cette affaire, répétant à qui veut bien l'entendre qu'aujourd'hui tout le monde ou à peu près est mis en examen dans la vie politique française. Enfin, le cas échéant, notons que l'équilibre de la majorité présidentielle pourrait s'en trouver bouleversé, alors même que les relations entre La République En Marche d'un côté et les troupes centristes de l'autre demeurent contrastées, voire conflictuelles, s'agissant de la campagne à venir des municipales. À moins d'une semaine des élections législatives anticipées du 12 décembre, censées sortir le Royaume-Uni de l'impasse politique autour de la question du Brexit, les conservateurs britanniques font toujours la course en tête dans les sondages. Pour autant, leur succès reste encore assez largement incertain, tant la personnalité du Premier ministre demeure clivante, sans compter que Boris Johnson a déjà été pris à plusieurs reprises en flagrant délit de mensonge. Le problème, c'est qu'à l'inverse, le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a lui du mal aussi à convaincre avec son lot de promesses en tout genre. Les précisions de notre envoyé spécial, Louise Baudet.
Trop de promesses côté Jeremy Corbyn, trop de mensonges côté Boris Johnson. L'actuel Premier ministre conservateur a beau s'être assagi depuis qu'il est à Downing Street, il demeure aux yeux des Britanniques un homme aux vérités successives et souvent contraires à la réalité. Un provocateur aussi, contraint hier de présenter des excuses pour avoir comparé les femmes en burqa à des boîtes aux lettres. Quant à Jeremy Corbyn, il souffre d'une impopularité record pour un leader d'opposition. Le chef de file des travaillistes brouille son message en refusant de se positionner clairement sur le Brexit et il effraie une partie de l'électorat pro-européen avec un programme résolument ancré à gauche qui prévoit des renationalisations et des investissements massifs dans les services publics. Au Royaume-Uni, 10 ans d'austérité ont mis à mal ce qui restait du welfare state et le devenir du NHS, système de santé gratuit pour tous, est au cœur de la campagne. Boris Johnson lui-même lui-même promet de rompre avec les coupes budgétaires et d'embaucher 50 000 infirmières. Mais son premier mot d'ordre reste la sortie de l'Union européenne. Let's get Brexit done, slogan porteur, tant les Britanniques de tous bords souhaitent passer à autre chose. Jeremy Corbyn a beau souligner les défauts du deal négocié par Boris Johnson, il a beau l'accuser ce matin encore de tromper le peuple sur les conséquences du Brexit en Irlande du Nord, la promesse de tourner la page séduit et les Tories ont pour leur l'avantage dans les sondages.
C'était le 6 décembre 2008, la mort d'un adolescent abattu par un policier à Athènes déclenchait des émeutes d'une ampleur inédite à travers la Grèce, attestant du malaise d'une jeunesse alors minée par la précarité des débuts de la crise. Et depuis lors, tous les ans, la jeunesse et la gauche grecque manifestent en cette journée lors de marches de la mémoire, sauf que redoutant des actes de vandalisme et des affrontements, eh bien la police est aujourd'hui sur le pied de guerre, d'autant que cette commémoration donc est la première depuis l'élection, c'était en juillet dernier, d'un gouvernement conservateur, lequel a notamment durci les peines de prison pour violences urbaines. Angela Merkel s'est rendue pour la première fois ce matin à Auschwitz, cet ancien camp nazi associé sans doute plus que tout autre à l'extermination des Juifs. Un déplacement évidemment hautement symbolique au moment même où l'Allemagne, qui a fait du souvenir de la Shoah le cœur de son identité d'après-guerre, s'alarme aujourd'hui d'une résurgence de l'antisémitisme. Alors que le ton monte entre les Européens et les républiques islamiques d'Iran, de moins en moins enclines à respecter les règles encadrant ces activités nucléaires, les pays signataires de l'accord de 2015 doivent se réunir aujourd'hui à Vienne pour tenter une nouvelle fois de convaincre Téhéran de respecter ses obligations. Il faut dire que depuis le retrait unilatéral des États-Unis, le texte a aujourd'hui du plomb dans l'aile, sans compter qu'en représailles aux sanctions économiques rétablies par Donald Trump et qui asphyxient son économie, eh bien Téhéran n'a d'autre choix aujourd'hui que de se désengager elle-même de l'accord dans l'espoir de faire pression sur les Européens pour contourner les dites sanctions américaines. Les explications de Christian Chéneau.
Déchiré par Donald Trump, l'accord de Vienne est de moins en moins respecté par l'Iran, qui sort progressivement des clous. Son stock d'eau lourde, utilisé dans la production de plutonium permettant de fabriquer une bombe nucléaire, a franchi la barre des 130 tonnes autorisées. Téhéran a également dépassé la limite d'enrichissement d'uranium, fixée à 3,67%. Sa capacité de production de combustible enrichi est désormais de 5%. Certes, on est encore loin du seuil critique des 20% qui permettrait à la République islamique d'obtenir, dans un délai très court, l'arme atomique, mais tous les clignotants sont au rouge. La situation commence à se tendre du côté de l'AIEA, le gendarme de l'énergie atomique de l'ONU. L'une de ses inspectrices s'est vue récemment retirer son accréditation par les autorités iraniennes à la suite d'une visite de terrain, un incident qualifié d'intimidation par l'AIEA. Faute d'une levée des sanctions économiques américaines, l'Iran va continuer à sortir de l'accord de Vienne. La prochaine phase de son désengagement est d'ailleurs programmée en janvier prochain.
Et puis toujours s'agissant de l'Iran, j'ajoute que les États-Unis ont accusé hier le régime de Téhéran d'avoir tué plus de 1000 personnes lors de la répression brutale de la contestation qui a éclaté mi-novembre. Un bilan bien supérieur à ceux évoqués jusqu'ici, mais conforme en revanche à celui diffusé la veille déjà par les Moudjahidines du peuple, ce mouvement iranien d'opposition en exil et proche des conservateurs américains. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis, a demandé hier que soit formellement rédigé l'acte d'accusation contre le président Donald Trump, coupable selon elle d'abus de pouvoir. C'est donc une étape supplémentaire dans cette procédure de destitution au long cours. Le vote devrait avoir lieu avant les vacances de Noël. En revanche, et le cas échéant, il risque de se heurter à la majorité républicaine au Sénat. Les Israéliens seront-ils de nouveau appelés aux urnes pour la troisième fois en moins d'un an? La question reste posée à quelques jours seulement maintenant de la date limite pour former une coalition gouvernementale. Ce sera mercredi prochain. Et c'est ainsi que des manifestations pro ou anti-Netanyahou se tiennent en ce moment même un peu partout dans le pays, comme à Jérusalem, dans un parc en plein centre-ville où un petit campement a été installé pour réclamer le départ du Premier ministre Netanyahou. C'est un reportage de Frédéric Mettezo.
Fin d'automne à Jérusalem, il ne fait plus que 16 degrés. Les Israéliens commencent à avoir froid, mais du matin au soir, ils sont toujours une vingtaine à se relayer, près d'une centaine le week-end. Le célèbre neuropsychiatre Yoram Yovel a déjà passé 10 nuits sous sa tente.
J'ai peur qu'Israël dérive façon Turquie, Hongrie ou Russie. Le Premier ministre a mis fin à l'équilibre des pouvoirs, comme le disait Montesquieu. Il a kidnappé tout le pays et il met Israël en danger. Par exemple, quand va-t-on en guerre ou pas? On n'a pas de directeur général de la police depuis un an et on n'a pas de budget pour 2020. C'est la paralysie.
Les militants interpellent les automobilistes, les passants signent un livre d'or, chacun confectionne son affiche ou sa banderole.
Bébé,
Bibi démissionne, Bibi au tribunal, va-t'en pour l'amour de Dieu. Ricky et Liat lisent les slogans et quand on leur parle d'une troisième élection...
On a dépensé trop d'énergie avec Bibi, c'est trop. Maintenant, notre pays a besoin d'un leader tranquille. Ça a coupé le pays et divisé le peuple. Je ne me souviens pas d'une époque où l'on a été autant séparés dans le pays.
Il y a 8 ans déjà, sous Netanyahou, le plus grand mouvement social de l'histoire d'Israël contre la vie chère avait commencé sous les tentes.
Un reportage à Jérusalem signé Frédéric Mettezo. Quand les jeunes du monde entier s'invitent à la COP25, ceux qui manifestent depuis un an et dont le mouvement Friday for Climate, grève du climat, a démarré fin 2018 dans le sillage de la mobilisation de l'emblématique suédoise Greta Thunberg, seront aujourd'hui dans les rues de Madrid. Des jeunes qui n'auront pas attendu toutefois cette journée donc de vendredi pour s'exprimer dans les allées de la COP25, comme en témoigne ce reportage de notre envoyée spéciale Véronique Robérotte.
On ne peut pas les rater, ils chantent, ils ont déployé de larges banderoles à l'entrée de la COP25. Ruth Miller, 22 ans, défend les peuples autochtones en Alaska. Elle se bat contre les multinationales.
Nous sommes en colère parce qu'on n'est pas responsable pour la crise. C'est la faute des multinationales qui viennent extraire notre pétrole, surtout, mais aussi les forêts. On part de notre expérience. Nous n'avons pas des intérêts, des profits d'extraction. Nous sommes ici seulement pour notre avenir.
Pour Nicolas Héringer de l'ONG 350.org, cette COP25 démarre un nouveau cycle d'action pour la société civile, très mobilisée depuis un an.
La COP aurait dû avoir lieu au Chili et elle a été déplacée précisément parce que la société civile au Chili a pris la rue autour d'une question d'accès aux moyens de transport et d'accès à l'énergie et autour aussi de questions qui sont liées au changement climatique puisqu'il y a eu des sécheresses dramatiques durant l'été austral. Donc être présent ici à Madrid, c'est une manière de rappeler que même si les gouvernements cherchent à se déplacer, la société civile ne sera pas réduite au silence et c'est d'autant plus important aussi que ça vient clore une première année, disons, de grève du climat. Donc c'est voilà un nouveau cycle qui démarre du côté de la société civile et on espère qu'il va entraîner un nouveau cycle du côté des négociations.
La société civile manifestera cet après-midi à Madrid avec à sa tête la jeune Suédoise Greta Thunberg.
Eux font partie de ces victimes justement aujourd'hui du réchauffement climatique et depuis quelques jours dans le nord-est de la Syrie, on les a même vus se rapprocher dangereusement d'un village à Tchoukokta. Eux, ce sont les ours polaires, au total une cinquantaine d'ours nourris désormais par les habitants en attendant que la banquise ne se reconstitue d'ici une semaine. Une situation, Claude Brouillot, qui peut a priori sembler cocasse, mais qui a tendance en réalité à se répéter depuis quelques hivers, y compris d'ailleurs dans les régions pourtant les plus froides de Russie.
Le phénomène devient maintenant récurrent. Les ours polaires de Tchoukotka, cette région à l'extrême nord-est de la Russie qui donne sur le détroit de Bering, sont victimes du réchauffement climatique après leur congénère de Nouvelle-Zemble, un archipel russe à l'extrême nord du pays l'hiver dernier. À cause de l'augmentation des températures, la banquise qui se forme plus tardivement réduit leur territoire de chasse et les plantigrades sont obligés de se rapprocher des humains à la recherche de nourriture. Cette fois, les habitants de Tchoukotka ont pris l'affaire en main en disposant de la viande de phoque à l'extérieur du village pour une cinquantaine d'ours à proximité et en attendant que la glace se reforme. L'an dernier, en Nouvelle-Zemble, les ours avaient été endormis et reconduits à une centaine de kilomètres des habitations. L'un d'entre eux est d'ailleurs l'objet d'une polémique aujourd'hui, portant sur sa fourrure de grosses marques noires avec les indications T34, initialement destinées à mieux suivre son périple, mais des scientifiques assurent que l'animal, privé de son camouflage naturel blanc, pourrait mourir de faim.
L'invité de la rédaction aujourd'hui, le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane. Bonjour. Première question monsieur Bayou, avant d'évoquer avec vous la mobilisation d'hier. Je parlais à l'instant des manifestations de jeunes prévues aujourd'hui à Madrid dans le cadre de la COP25. Est-ce que la mobilisation de ces jeunes aujourd'hui est de nature, selon vous, à faire bouger les lignes du côté des décideurs politiques?
J'espère en tout cas... Nous, on soutient bien sûr ces mobilisations. Il y en aura une dimanche à Paris. Je pense que cette jeunesse, tout simplement, elle se mobilise pour son avenir. En fait, ça fait des décennies que les écologistes, avant nous, alertaient sur le risque climat pour les générations futures. Et c'est un espoir de constater que ces générations futures, elles sont là, elles répondent présent, dans la rue comme dans les urnes d'ailleurs. Elles n'attendent pas les décideurs pour prendre en main une partie de leur avenir. Et maintenant, je pense que l'enjeu, c'est plus d'influencer ces décideurs qui ont tous les éléments scientifiques sur la table, c'est de les remplacer. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être très clair, ceux et celles qui sont en responsabilité et qui ne prennent pas les décisions nécessaires pour nous protéger, je parle de toutes les générations là pour le coup, puisque la France est un des pays les plus exposés au risque climatique, c'est un rapport de début décembre de German Watch. Les décideurs qui sont en place et qui ne prennent pas toutes les responsabilités, toutes les décisions pour nous protéger, doivent être remplacés.
Est-ce que vous avez manifesté hier contre la réforme des retraites ?
Oui, j'étais dans la rue, nous étions dans la rue avec les écologistes hier, à Paris bien sûr, mais à Montpellier c'était une immense manifestation, à Lyon également, partout en France il y avait des écologistes. Là encore, en fait, il s'agit de protéger notre avenir. Nous, on est attachés à la question de la solidarité intergénérationnelle, à ce système de retraite par répartition, qui est un bel héritage du Conseil national de la Résistance. Il ne faut pas dire qu'il est parfait, ce n'est pas vrai. Les femmes sont plus exposées à la précarité, les auto-entrepreneurs, les jeunes précaires, puisque ce système, il est construit finalement sur la base des temps longs, des CDI, des carrières longues. Donc il faut l'améliorer, mais en rien le jeter aux orties. Et au-delà même de la proposition de réforme, moi depuis ma première fiche de paye, il y a une vingtaine d'années, on nous a proposé 5 ou 6 réformes. Elles vont à peu près tous dans le même sens, qui est en gros de dire, de manière directe ou indirecte, prenez vos arrières. En gros, sauf qui peut, chacun pour soi, capitalisez de votre côté. Eh bien, ça, c'est le début de la dislocation de la démocratie. Nous disons qu'on doit améliorer ce régime par répartition, que les riches ne doivent pas faire sécession en prenant leur propre régime de capitalisation, et qu'au contraire, on doit réformer ce régime, oui, mais dans le sens de plus de justice sociale.
Est-ce que c'est la place d'un mouvement comme Europe Écologie Les Verts de protester dans un mouvement, dans une contestation sociale comme ça ? Est-ce que vous ne prenez pas le risque de brouiller votre message ?
Et vous savez, l'écologie, c'est 3 piliers, l'environnement, la justice sociale, la démocratie. Ce gouvernement sur l'environnement est à la ramasse. On l'a vu encore récemment, malheureusement, avec l'épisode tragicomique sur l'huile de palme, où le gouvernement préfère donner de l'argent à Total en cadeau d'impôt plutôt que de lutter contre la déforestation. Sur la justice sociale, on a vu qu'il fallait que quelques mois au gouvernement pour réduire les impôts des plus riches avec la baisse de l'ISF, mais qu'on attend toujours un vrai plan de lutte contre la pauvreté digne de ce nom. Et sur la démocratie, moi je ne comprends pas comment fonctionne ce gouvernement. Sur ce plan de réforme des retraites, ça fait 2 ans et demi maintenant que Emmanuel Macron a été élu. Il y a eu 2 ans de concertation avec Delevoye auprès des corps intermédiaires. On n'est pas forcément obligé de partager toutes les orientations du rapport de Delevoye, mais néanmoins, son travail avait été salué. À peine il le remet en septembre, ce rapport il est déchiré, on annonce un nouveau débat, un peu nébuleux comme ça, et en gros on comprend que pour le gouvernement il s'agit d'enjamber les municipales pour présenter une réforme après. Bon, ben, si votre réforme elle vous fait perdre les municipales, c'est peut-être qu'elle est injuste en fait. Tout simplement.
Ma question était portée sur le positionnement politique d'Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, c'est un débat en interne, hein, puisque on a vu au printemps dernier, juste après les élections européennes, Yannick Jadot déclarer que il pouvait appeler à voter pour un maire de droite en fonction des projets qu'il porte. Et vous êtes récrié, on ne fera pas d'accord à droite. Alors, est-ce que vous expliquez depuis ? Est-ce que ce débat est tranché ? Et est-ce que Europe Écologie Les Verts, en s'ancrant définitivement à gauche comme ça, ne prend pas le risque de rester un parti supplétif ?
Mais nous sommes un parti de gouvernement et je peux vous dire que si nous étions au pouvoir, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Ce que nous disons, c'est que l'écologie n'est pas compatible avec la droite, parce que malheureusement, les partis de droite, que ce soit En Marche, Les Républicains ou bien sûr l'extrême droite, sont productivistes par essence. L'idée, c'est de violenter la nature, l'idée, c'est de précariser les hommes et les femmes. C'est productiviste, si vous voulez. Mais restreindre l'écologie à la gauche, c'est faire une erreur, parce que nous voulons travailler avec toutes celles et ceux qui aujourd'hui considèrent que l'écologie est la priorité. L'écologie au sens de l'environnement, la justice sociale, la démocratie. Et donc on ne demande pas aux gens ce qu'ils ont voté par le passé. L'enjeu c'est de construire une alternative heureuse pour le pays, de ne pas se retrouver confronté avec un nouveau match Emmanuel Macron-Marine Le Pen, où cette fois-ci, eh bien Emmanuel Macron pourrait le perdre. Donc il faut bien travailler à une alternative heureuse pour le pays. Ça ne se résume pas à la gauche. Toutes et celles et ceux qui se retrouvent dans l'écologie comme priorité sont les bienvenus.
Vous avez déclaré vouloir déborder Europe Écologie Les Verts pour, en vue de la conquête du pouvoir. Est-ce que la première étape, ça passe par les municipales en mars prochain?
Oui, clairement, l'enjeu, ce sont les municipales. C'est aussi, on parlait de la COP 25, c'est aussi au niveau local qu'on peut activer bien des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique, pour créer des îlots de fraîcheur, pour des cantines bio qui permettent de lutter contre les pesticides et améliorer la biodiversité, puis améliorer aussi tout simplement les revenus des agriculteurs. Et puis un enjeu, moi, qui me tient à cœur, la rénovation thermique. Quand on rénove des logements, on crée des emplois locaux et non délocalisables, et puis on permet aux gens d'économiser sur leur facture. C'est tout bon pour tout le monde, pour le climat, pour l'emploi et pour le pouvoir d'agir.
Et vous y allez seul. Et on terminera par ces mots. Merci. Merci à vous. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Avec de la grisaille sur un vaste quart nord-ouest du pays, des précipitations sur le pourtour méditerranéen, en revanche de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, puis en remontant vers le nord-est, là, les brumes et brouillards de la matinée devraient laisser la place à de belles éclaircies. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Pommé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.